Bonsoir. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé jeudi dernier devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République a annoncé que la RDC financera seule et entièrement les scrutins présidentiels ainsi que les législatives provinciales et nationales prévues en décembre 2018. Joseph Kabila soutient que la RDC prend cette option pour donner un sens à l'indépendance et à la dignité des Congolais. Quelle analyse faire de cette déclaration du chef de l'État ? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous accueillons John Banza Lunda, secrétaire général du parti Les Fédéralistes, membre de la majorité présidentielle. John Banza, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Christian Mwando, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national et président du parti politique UNADEF, mais également secrétaire général adjoint de Ensemble pour le changement, plateforme politique de l'opposition dirigée par Moïse Katumbi. Et enfin, Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Vous êtes également coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Jérôme Bonceau, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir aux nombreux auditeurs de la Radio de la Paix. Bonsoir à tout le monde.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président de la République a parlé jeudi dernier à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Joseph Kabila a rappelé que la République démocratique du Congo financera seule et entièrement les scrutins présidentiels, les législatives provinciales et nationales prévues en décembre 2018. Il explique que la RDC prend cette option pour donner un sens à l'indépendance et à la dignité des Congolais. Un extrait de cette allocution de Joseph Kabila proposée ici par Alain Hirung.
Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Loin de relever de la suffisance, encore moins de l'arrogance, il s'agit plutôt d'une option politique responsable qui donne un sens à notre indépendance et à notre dignité nationale. Et à cet effet, et j'en appelle à la vigilance et au patriotisme de la classe politique, toutes tendances confondues, afin que les prochaines élections, ouvertes du reste à tous ceux qui en réunissent les conditions légales d'éligibilité, soient un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale. Que seul le Congo puisse sortir vainqueur de ces consultations afin que vive la paix, la stabilité, l'unité et le développement de notre pays.
John Banza Lunda, nous commençons par vous. Vous êtes secrétaire général du parti Les Fédéralistes, membre de la majorité présidentielle. En utilisant la terminologie « financer entièrement les élections en RDC », est-ce que le président de la République veut dire que la RDC refusera désormais tout soutien étranger, même logistique, même offerte gracieusement?
Je pense qu'il ne faut pas faire dire au président ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il a fait, ce qu'il a déclaré, n'est pas une simple déclaration. C'est plutôt une profession d'une profonde croyance en notre dénominateur commun, qui est le Congo. Le Congo dans sa grandeur, le Congo dans sa diversité, le Congo dans sa richesse, et le Congo dans sa volonté de devenir cette puissance au cœur de l'Afrique. Et donc, l'élection étant essentiellement une question de souveraineté, il est de notre devoir, en tant que fils de ce pays, de tout faire pour non seulement déclarer que nous avons la capacité de faire, mais nous avons aussi la volonté et nous pouvons mettre les moyens, nous pouvons mettre toutes les énergies et toutes les intelligences au service de la démocratie et au service du développement de notre pays. Et il a souligné qu'il ne s'agit pas de la suffisance. Il ne s'agit pas de l'arrogance. Il s'agit d'une prise de conscience. Il s'agit d'un défi que nous devons relever. Et il en a appelé à tous. Et que ce soit ceux de la majorité, que ce soit ceux de l'opposition ou de la société civile, Congolais que nous sommes, nous devons porter le devenir de notre pays. Nous devons porter notre pays vers le lendemain meilleur. Le Congo, c'est ça le dénominateur commun.
Mais donc, est-ce que ça signifie que si par exemple la Grande-Bretagne, l'Allemagne et quelques pays apportent à la RDC de l'argent frais ou des contributions substantielles pour cette organisation, est-ce que la RDC va arriver?
Je répondrai en disant que si aucun pays ami ne nous venait pas en aide, est-ce que nous n'allons pas organiser ces élections? Nous devons prendre nos responsabilités. Et le premier d'entre nous, le président de la République, nous montre la voie.
Si jamais l'aide est là.
On ne peut pas confondre la coopération, qui est la bienvenue, et la quête de l'indépendance, l'affirmation de l'indépendance, de la souveraineté. C'est une question éminemment souveraine. On devrait au contraire applaudir. Cette fois-là, le Congo prend ses responsabilités pour redonner la parole au peuple congolais qui est le souverain. Et donc, dans sa conclusion, qu'est-ce qu'il dit? Au soir du 23 décembre 2018, le Congo sortira vainqueur. Et comment le Congo sortira vainqueur? Lorsque la seule condition à remplir, c'est la conjugaison des efforts, la conjugaison des énergies, la conjugaison des intelligences dans le sens du développement, dans le sens de la démocratie.
John Banza, la RDC est indépendante depuis 58 ans, mais qu'est-ce qui explique que cette terminologie de rappeler l'indépendance de la RDC n'apparaisse que maintenant? On se souvient très bien qu'en 2006 et en 2011, les élections organisées en RDC avaient été fortement soutenues par des appuis et même par des soutiens politiques étrangers.
Mais si en 2006 c'était le cas, ou en 2011, mais jusqu'à quand nous allons continuer à attendre que les autres puissent financer entièrement notre propre démocratie? Nous sommes capables de le faire. Pourquoi ne devons-nous pas le faire? Ça, c'est le moment. Et ça, c'est le temps où le Congolais doit prendre le destin de son pays en main. Et voilà la voie qu'il faut. Et voilà la voie vers la démocratie véritable et la voie vers le développement.
Est-ce que le président de la République est, par exemple, en désaccord avec ses soutiens étrangers? Voilà pourquoi il rappelle l'indépendance.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre la question liée à la coopération et la question liée à la souveraineté. La souveraineté, c'est quelque chose qui est essentiellement lié à la volonté du peuple congolais. Et donc ici, il s'agit d'une option, et d'une option liée au devenir du peuple congolais. C'est ça, c'est très simple.
Alors, on sait que le budget pour les élections à RDC est important. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de quelle hauteur on est arrivé aujourd'hui en termes de mise à disposition du budget à la CENI?
Je pense que la CENI ne s'en plaint pas, et donc les décaissements sont en train d'être effectués au rythme régulier et au rythme normal.
Il ne faudrait pas
verser dans ce qu'on appelle un fatalisme de façade. C'est-à-dire quoi? Tout ce que nous sommes en train de faire, qu'il soit positif, on ne voit que du noir, ça s'appelle la sinistrose. Tout ce qu'on fait qui nous fait avancer, on ne peut pas. La CENI n'est pas sortie pour nous dire que nous avons des difficultés jusque-là. Donc nous sommes en train d'avancer. Et ce qui est important ici, c'est la parole au peuple congolais. Les gens ont marché, les gens ont réclamé les élections, les trains sont en marche, le calendrier est là, les acteurs ont déjà déposé les candidatures, et voilà, nous sommes en train d'y aller, et nous pensons que la vraie démocratie sera consolidée à la seule condition que nous puissions nous tous porter ce défi entre Congolais et pour que le vainqueur soit le Congo.
Merci John Banza, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Christian Mwando, député national et président du parti politique UNADEF, mais également secrétaire général adjoint de Ensemble pour le changement, plateforme politique de l'opposition dirigée par Moïse Katumbi. Christian Mwando, l'opposition a aussitôt critiqué cet engagement du chef de l'État à organiser les élections avec les fonds propres. Vous pouvez expliquer pourquoi aussitôt ces critiques?
Je tiens d'abord à saluer nos auditeurs du Grand Nord, qui sont en insécurité et pour lesquels on ne parle pas de souveraineté nationale, du Haut-Katanga, du Tanganyika, spécialement du Kasaï, et dire une seule chose. Il faut d'abord considérer que nous sommes devant une personne, le président Kabila, qui a parlé hors mandat. C'est-à-dire, nous sommes devant quelqu'un qui a refusé depuis bientôt 2 ans d'organiser les élections en République démocratique du Congo et qui, après son mandat, nous parle de souveraineté. Je voudrais vous mettre quelques chiffres, parce que je préfère parler souvent avec les chiffres. En 2015, le budget de la République démocratique du Congo était plus ou moins de 8 milliards de dollars américains. Et Kabila et son groupe nous ont expliqué qu'il était impossible d'organiser les élections parce qu'il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, le budget de la République démocratique du Congo tel que nous l'avons voté tourne autour de 5 milliards de dollars américains. Ça veut dire 40% moins. C'est-à-dire, nous avons baissé notre budget de 40%, mais aujourd'hui, par rapport à 2015 et 2016, nous trouvons que nous avons les moyens d'organiser seules les élections. Donc vous comprenez déjà, d'ores et déjà, que la tricherie est confirmée et la volonté de ne pas organiser les élections est manifeste. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Joseph Kabila et sa mouvance ont décidé d'agiter, comme d'habitude, la fibre du nationalisme, de l'indépendance et de la souveraineté, en vue de tromper le peuple congolais. Parce que leur intention réelle, c'est d'organiser des élections truquées, en fermant la porte à la communauté internationale qui risque d'être un témoin gênant. Parce que la communauté internationale pose des conditions pour l'organisation transparente, démocratique et apaisée de ces élections. Le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, la décrispation politique notamment et principalement le retour de Moïse Katumbi, la neutralité de la CENI, notamment par le remplacement du délégué de l'UDPS, pour lequel on ne sait pas pourquoi il n'est toujours pas remplacé. C'est ainsi que vous verrez que dans cette intention d'enfermer le Congo dans l'obscurité, avec une CENI aux ordres, avec une nomination dans la précipitation des copains, dans les postes, notamment à la Cour constitutionnelle, notamment au Conseil d'État, dans la précipitation, notamment le fait de ne pas libérer les prisonniers politiques, on se dit que si on le fait, on fait tout ça avec l'œil de la communauté internationale, ça sera tout à fait suspect et tout à fait ridicule. N'oubliez pas aujourd'hui que Kabila et son groupe cachent dans le fichier électoral 10 millions de fictifs. Pouvez-vous comprendre que un quart des enrôlés n'ont pas de doigts, n'ont pas donné leurs empreintes? Tout cela, si la communauté internationale est présente, on va demander de refaire tout ce processus-là. Et Kabila n'est pas prêt à le faire. La machine à tricher, qu'on appelle la machine à voter, que on ne veut pas, tout cela fait partie du projet, parce que non seulement le groupe de Kabila se réserve 10 millions d'électeurs fictifs dans les fichiers électoraux, utilise la machine à tricher, donc il a déjà un tiers des électeurs qui sont déjà partis. Or, si la communauté internationale que nous, opposition, nous considérons comme le vrai arbitre, parce que vous savez très bien que pour nous, la CENI est le 12e joueur de la mouvance présidentielle.
Et Christian Mwando, il y a David Kabemba qui lui pense que la décision de l'autofinancement des élections est une bonne chose. Je le cite, nous sommes un État libre avec un président et un gouvernement également libre de servir la RDC, même s'il y a quelques imperfections.
Oui, je voudrais un peu rappeler à notre interlocuteur que depuis 16 ans, nous sommes sous contrôle de la MONUSCO parce que incapable d'assurer la sécurité de nos concitoyens et la stabilité de notre pays. Notre indépendance va venir de l'éducation gratuite de nos enfants, un salaire décent. Nous avons plus de 4 millions de gens qui souffrent de malnutrition. Aujourd'hui, avec ce budget de 5 milliards de dollars, d'où vient la force après la fin de ce mandat à Joseph Kabila pour brusquement décider que maintenant nous sommes capables d'organiser les élections tout seuls. Il s'agit pour moi et pour notre mouvement politique ensemble d'une simple tromperie. On essaye de prendre le peuple congolais au piège en agitant la fibre du nationalisme pour les piéger et avoir seul Nanga comme maître aux commandes et pouvoir tromper tout le monde et tricher aux élections.
Certains observateurs soupçonnent de l'autre côté aussi l'opposition de ne pas réellement vouloir les élections parce qu'elle n'est pas prête. Le président de la République, dans son discours, invite l'opposition à s'approprier l'opposition électorale. En quelques mots, pouvez-vous nous dire comment vous, de l'opposition, vous préparez ce rendez-vous?
Ben, évidemment, comme je l'ai dit, je le répète encore, nous avons, nous, en tout cas nous en tant qu'ensemble, nous avons déposé nos candidatures sur 98% des circonscriptions électorales. Nous allons encore déposer nos candidatures sur 100% des circonscriptions électorales. Et nous allons déposer notre candidature de Moïse Katumbi à la présidence de la République. C'est cela malgré que nos amis ne veulent pas faire la décrispation politique. Nous avons voulu le faire pour ne pas leur donner l'argument de dire que nous ne sommes pas prêts pour les élections.
Merci Christian Mwando, nous reviendrons à vous tout à l'heure dans le deuxième échange. Jean Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Techniquement, Jérôme Bonso, la République démocratique du Congo peut-elle, à ce niveau du processus électoral, tout prendre en charge sans sacrifier la qualité des résultats, la qualité et les résultats des élections?
Merci, cher ami Donat. Avant de répondre à votre question, je salue à ma gauche Monsieur John Banzal et à ma droite honorable Christian Mwando. Oui, le pays, à travers le monde, les élections sont organisées par un État. Et quand est-ce qu'un État doit recourir au financement extérieur? Quand l'État fait une évaluation sur l'évaluation financière, logistique, technique et organisationnelle, quand il y a un déficit remarqué là-dessus, l'État peut recourir au financement extérieur, le cas de Nations Unies, Union Européenne et Union Africaine, ainsi de suite. On peut recourir à cela. Mais aujourd'hui, nous allons organiser les élections. Quel type d'élections allons-nous organiser? Ce sont les élections atypiques, qui ne sont pas issues de la loi fondamentale, parce qu'à son temps, nous n'avons pas organisé les élections qui étaient prévues dans le délai constitutionnel. Aujourd'hui, nous allons organiser les élections qui sont le produit des béguilles d'accord de la Saint-Sylvestre, qui consulte les béguilles à la constitution, à notre constitution, qui est dans le coma politique. Donc ici nous devons nous mettre en passe en tête, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réussir à nos élections? Pour réussir les élections, il faut le financement bien sûr. Mais ici j'ai suivi le discours du chef de l'État quand il a fait le compte rendu, il a fait ce qu'on appelle la redevabilité, rendre compte, parce qu'il a géré l'État dans différents secteurs de la nation. Il a dit désormais il ne va plus accepter que les élections. C'est qu'avant il avait accepté les élections. Les élections de 2006 étaient organisées, financées à plus de 80% par la communauté internationale. Les élections de 2011 étaient financées à plus de 80% par le gouvernement de la République. Et aujourd'hui, le président dit, honorable Christian a dit, nous avons un budget de 5 milliards et nous avons suivi des communications importantes lors de la tripartite, qui est une recommandation de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a réuni le gouvernement de la République, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et le CESA. Et de cette rencontre, le ministre, les trésoriers de l'État a dit il a déjà remis plus de 200 millions de dollars à la CENI et qu'il venait de remettre à Sénante plus de 40 millions sur l'enveloppe de 450 millions. Donc, selon la communication du gouvernement, que moi j'ai qualifié aussi parfois une communication importante mais tardive, parce qu'en gouvernance électorale, en gouvernance consensuelle et concertée de la chose électorale, la communication devait primer de la part de la CENI qui reçoit l'argent du plan de décaissement. CENI, vous avez reçu quoi, combien? CENI garde silence à radio. Le gouvernement, vous avez versé combien? Silence à radio. C'est un peu de temps qu'on nous donne un peu d'informations qui ne nous rassure pas.
Mais Jérôme Bonsoir, vous pensez, quand vous écoutez cette guerre de communiquer des chiffres, qui pensez-vous qu'il donne le chiffre le plus proche de la vérité?
Nous, le gouvernement, quand le trésorier, le ministre des Finances, vous dit que nous avons déjà donné à la CENI plus de 200 millions et qu'il venait de verser plus de 40 millions à la CENI, et le silence que la CENI aussi gardait, le silence que le gouvernement gardait, il devait nous donner, nous, population, parce qu'en matière d'organisation des élections, on organise les élections, la CENI doit organiser les élections avec les Congolais et non pour les Congolais. Et dans ce moment-là, intervient le concept d'appropriation du procès électoral. Et c'est pourquoi, sous d'autres cieux, j'ai eu la petite chance de sillonner le monde. J'ai été lors des élections de la Perestroïka dans la Fédération de Russie. Il était interdit aux partis politiques russes, aux organisations russes, et au pouvoir central de recourir au financement extérieur des élections. Je suis allé aux élections de Grande-Bretagne, il était interdit. Aux élections des États-Unis, interdit. Et dans certains pays africains, interdit de recourir au financement extérieur des élections.
Mais selon vous, qu'est-ce qui a expliqué que pendant deux cycles entiers, la RDC, sans que ça ne choque personne, a accepté cette aide que vous avez qualifiée à 80%, même si le gouvernement a toujours dit que la contribution extérieure ne dépassait pas les 30%.
Mais c'est question de volonté politique. Si aujourd'hui, le Congo va organiser seul ses élections sans recourir au financement extérieur, à ce moment-là, ça va aussi donner de l'essor à d'autres pays africains. Et surtout le pays de l'Afrique subsaharienne, il y a autant de pays qui refusent dans leur législation le financement extérieur.
Est-ce que techniquement, l'argent que vous pensez qui a été déjà décaissé jusqu'ici a suivi les besoins attendus? Et est-ce que avec cette décision du gouvernement de financer seul les élections, ça sera possible?
C'est là où la CENI devait communiquer avec nous. La CENI devait dire, le 200 millions que j'ai déjà eu, c'est pour payer les dettes ou bien les histoires, et ça ne me permettrait pas d'aller jusqu'au bout. C'est la CENI qui devait communiquer avec nous. Le gouvernement a communiqué, la CENI devait dire, le 200 qui reste de millions, c'est pour faire quelle opération? Et c'est encore pour commande de machines à voter ou bien de kits électoraux ou autre histoire. Et c'est de 400, sur les 400, plus de 400 millions, c'est pour couvrir toutes les opérations, tous les scrutins, en commençant députation provinciale, nationale, les élections présidentielles, les élections municipales, urbaines et locales. Donc vous voyez, cette enveloppe-là, ça va nous permettre, mais là, à chacun de donner le contenu politique, le contenu organisationnel, le contenu logistique à ce refus ou bien l'acceptation du financement extérieur. Donc ici, nous pensons que les uns et les autres doivent, nous devons nous réjouir, nous Africains, pour dire que nous sommes capables, parce que le budget est là, nous devons respecter le budget de la République, et les élections constituent aussi une des tâches de la République, et on devait toujours budgétiser cette rubrique sans pour autant recourir à l'aide extérieure.
Merci Jérôme Bonsoir, nous revenons à vous tout à l'heure, le temps de retourner prendre le pouls chez John Banza, mais avant que John Banza ne prenne encore la parole, nous allons écouter ce commentaire qui nous vient de Bukavu.
C'est Kiri Chomba de Bukavu au site Kivu. Dire que la RDC financera seule et entièrement les scrutins présidentiels ainsi que les législatives provinciales et nationales prévues en décembre pour donner un sens à l'indépendance et à la dignité nationale des Congolais est non seulement un mensonge à ciel ouvert, mais c'est aussi une façon de rêver en étant debout. Comment la RDC va-t-elle financer les élections pendant qu'elle n'a pas la logistique nécessaire pour faire face aux besoins liés à la logistique pour les élections et surtout qu'on a un budget dérisoire de 4 milliards. À mon avis, il y a un flou total dans le plan de décaissement du fonds à allouer aux élections par le gouvernement, mais aussi un flou dans l'exécution du fonds destiné par le processus. Je pense que par élégance politique, Joseph Kabila devait nous éviter ce prétexte de souveraineté nationale qui ne fera qu'isoler notre pays sur le plan diplomatique.
Alors John Banza, notre auditeur du Sud Kivu, évoque le défi logistique. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de comment le matériel électoral, par exemple, sera transporté de province en province?
Je voudrais calmer notre, excusez-moi, notre compatriote Fikir Ichomba, qu'il ne s'agit pas d'un mensonge à ciel ouvert, ni à ciel ouvert, ni à ciel fermé. Ni encore moins un rêve debout ou soit assis. Il s'agit d'une option. Il s'agit d'une volonté. Il s'agit d'une détermination d'un État et de ses habitants d'aller de l'avant. D'aller de l'avant en sachant que nous avons un passé et nous avons tiré les leçons du passé et que nous pouvons faire mieux. Voilà le moment. Pour revenir à ce que l'honorable Mwando est en train de
et quelle réponse pouvez-vous déjà donner à ce stade à
la coopération n'est pas fermée. On n'a pas parlé d'une fermeture totale à toutes les sollicitations. Il s'agit des financements. On va financer, on est capable de financer. Mais s'il y a des partenaires qui peuvent aider à ce que nous puissions atteindre les objectifs, il n'y a pas de problème. Il faut pas confondre, il faut pas verser dans la manipulation comme l'a tenté tout à l'heure de démontrer l'honorable Mwando. L'honorable Mwando a fait de l'amalgame. Il a confondu une observation et un financement. L'honorable Mwando commence son argumentaire par l'insécurité. Mais je ne sais pas ce que venait faire l'insécurité sur une option d'organisation de l'élection. Attendez. Évidemment, je peux rappeler à l'honorable Mwando qui a dit que notre pays était sous la domination de la MONUSCO depuis 17 ans. Non, nous n'étions pas sous la domination de la MONUSCO. Nous étions accompagnés par la MONUSCO depuis un certain temps. Il dit que nous avons refusé d'organiser les élections. Non, on n'a pas refusé d'organiser les élections. Il connaît les causes profondes et ils en sont en partie, si pas totalement, responsables.
Et quelles sont ces causes?
Nous avons eu des rébellions qui ont même menacé l'existence de la République. Et grâce à notre armée, nous sommes arrivés à bout de ces rébellions. Et toutes ces rébellions ont coûté à la République des millions et des millions de dollars. Lorsqu'ils parlent du fameux accord de la Saint-Sylvestre, pour eux, la simple réduction, c'est le retour de leur champion, Moïse Katumbi. Moi, de ma part, ce que je sais, que ce monsieur est allé en dehors de la République pour se faire soigner. Et je le vois partout, sauf dans un hôpital. Et je ne sais pas s'il est déjà guéri ou pas. Et je ne sais pas si la République refuse qu'il rentre, et il est libre de rentrer. Et s'il a des comptes à rendre à la justice, et c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme un Congolais, alors il doit se présenter devant la justice. Là, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame. Alors, il parle de la nomination des copains. Je ne sais pas s'ils sont copains à qui. Et vous pouvez dire que aujourd'hui, le président de la République devient copain au professeur Vundwaoui. Vous connaissez l'âge du professeur Vundwaoui. Mais honorable, vous devez essayer de dire la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. La vérité, c'est quoi? C'est que il a souligné que la communauté internationale, que nous tenterons d'éviter, et le vrai arbitre. Ça veut dire tout. Mmh. Ça veut dire que la source de leur légitimité viendra de la communauté internationale. Au contraire de ce que nous pensons, la source de la légitimité est populaire. C'est le peuple congolais qui confère le pouvoir à ses dirigeants. Merci. Et c'est ici le lieu et le moment de dire que nous voulons les élections, nous voulons redonner la parole au peuple congolais, et puisque nous respectons la volonté du peuple congolais, nous devons mettre tous les mécanismes pour que le peuple congolais, dans sa souveraineté, puisse trancher. S'ils ont raison, ils auront les
votes. Merci John Banza, nous revenons à vous tout à l'heure aussi, le temps de redonner la parole pour le deuxième tour à l'honorable Mwando Simba, mais avant justement qu'il ne prenne totalement la parole, cette réflexion qui nous vient de Mahagi.
Adubanga est né chipé depuis Mahagi dans la province de l'Ituri. C'est les élections, à mon avis, c'est les bas et salutaires. Tant donné que la République démocratique du Congo est un pays indépendant et qui avait déjà acquéré les fonds depuis 2012, y compris les surplus de 2 ans, entre autres périodes où l'année 2016 et 2017.
Honorable Mwando, Dieudonné apparemment est plutôt satisfait de la déclaration du président de la République.
Oui, comme je l'ai dit, la déclaration du président de la République, Joseph Kabila, est une tentative de tromperie pour la population congolaise, parce que c'est tout simplement avec son équipe qu'il a mise à la CENI la tentative de s'approprier et de privatiser le processus électoral. Je voudrais ici répondre un peu à monsieur
à John Banza, qui n'est pas d'accord avec vous, hein, notamment lorsque vous dites que le président de la République gère avec ses copains.
C'est tout à fait,
c'est
tout à fait normal.
Il y avait des éléments qui empêchaient de parler
de copinage. Lorsque après 16 ans, on n'a pas mis le Conseil d'État et on vient le mettre hors mandat juste parce que il y a des élections qui pointent à l'horizon, ça pose un sérieux problème. Tout le monde sait aujourd'hui que personne ne veut continuer avec ce pouvoir. Tout le monde veut quitter. Il faut l'alternance. Parce que, après 16 ans, les gens ne veulent pas continuer dans l'insécurité, dans la misère. Les gens en sont à s'entretuer à la machette. Et s'il y a quelqu'un qui a vraiment peur des élections, c'est bien la mouvance présidentielle, parce qu'elle sait que le peuple veut dégager tous ces gens-là.
Mais Christian Mwando, est-ce que vous ne grossissez pas un peu les faits là? Parce que à Kinshasa, par exemple, il n'y a pas de conflit particulièrement et important de sécurité.
Mais vous savez, au Nord Kivu, en province orientale, l'ex-grande province orientale, vous savez, au Katanga, au Tanganyika, au Kasai, qu'est-ce qu'il y a comme insécurité? À Kinshasa, vous venez de suivre le problème avec les Ketch, où on attaque les gens au revolver.
Les véhicules berlines de transport.
Vous le savez très bien, l'insécurité bat son plein. Aujourd'hui, même malgré le discours d'autosatisfaction de Joseph Kabila, tout le monde sait que chacun a vu son pouvoir d'achat divisé par deux. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État sont payés au taux de 930 francs congolais pour un dollar américain. Alors que en réalité, le taux est à 1600. Donc, on a divisé par deux le pouvoir d'achat. Vous croyez que, dans ces conditions, ces gens sont prêts à nous amener à des élections crédibles? Non.
Mais s'agissant du financement, Jérôme Bonceau, qui monitore avec ses organisations le déroulement du processus électoral, semble plutôt satisfait du décaissement.
Non, je pense que vous avez bien suivi monsieur Bonceau. Il a été très clair. C'est-à-dire qu'il y a un flou. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Nanga, c'est le 12e joueur de la mouvance présidentielle, au lieu d'être l'arbitre. M. Bonso a bien expliqué ici qu'au lieu de nous donner la vérité des chiffres et les plans de décaissement, M. Nanga est là comme protecteur de la mouvance présidentielle. Et c'est pour ça, malgré tout ce qui a été dit ici, que nous voulons la présence de la communauté internationale pour battre ces gens à plate couture dans des élections vraies et transparentes. Parlant de Moïse Katumbi, je pense que les gens qui ont conduit l'accord de la Saint-Sylvestre, dont mon partenaire a été signataire à travers ses dirigeants, ont dit clairement qu'il s'agit de mascarade politique. Il s'agit de l'injustice. Pourquoi Joseph Kabila ne peut pas accepter aujourd'hui d'être un homme juste? Pourquoi il doit faire des procès politiques aux gens pour se maintenir au pouvoir indûment? Et la grande question à laquelle, finalement, il devra nous répondre. pourquoi quand Joseph Kabila avait 8 milliards de dollars de budget, il n'a pas organisé seul les élections. Il va nous parler d'autres propos. Il nous parle de la guerre. Je pense que la guerre dont il parle s'est terminée depuis 2013.
Merci. Merci Christian Mwando, nous reviendrons à vous tout à l'heure pour les conclusions. Jérôme Bonso, la parole est à vous, mais juste avant que vous vous prononciez, cette réflexion qui nous vient de Uvira.
Je suis Amani Kassali Placide, depuis Uvira, province du Sud Kivu. À 5 mois qui nous séparent des élections, on continue à soutenir la thèse de dire que la RDC va financer ces élections sans toutefois dépendre de l'extérieur. Tout ça, c'est vraiment utopie. Je me positionne en mal quant à ce propos du chef de l'État. Parce que le fait de nous dire que la RDC à elle seule, elle est capable de financer ces élections. On nous disait auparavant qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Où est-ce qu'alors elle a déjà trouvé cet argent? Et je pense que c'est une façon de nous distraire pour que lorsque nous arrivions en date prévue pour les élections, qu'on vient de nous dire que non, il n'y a pas d'argent.
Jérôme Bonso, avec 8 milliards, pas d'élection en RDC, est-ce que ce n'est pas quand même un peu trop rêvé de penser qu'avec 4 milliards de budget, déjà consommé d'ailleurs pour d'autres besoins, les élections seront organisées et bien organisées?
Les élections seront bien organisées. Quels sont les facteurs qui interviennent quand on doit organiser de bonnes élections? On doit partir d'un consensus. On doit partir d'un consensus, on doit partir dans la reconstruction de la confiance. On doit partir dans le fait de nous investir dans l'appropriation du processus électoral. Parce que ce sont les élections qui sont les nôtres. Quelles sont les politiques de nos moyens? Partant de cela, nous sommes capables. Cher ami Placide, 5 mois on continue à soutenir. Oui, 5 mois on doit continuer à soutenir parce que la commission électorale indépendante, Commission électorale nationale indépendante, dans son plan, dans sa planification stratégique, dans sa planification tactique et opérationnelle, pour le respect du rendez-vous électoral du 23 décembre 2020, tout ça est prévu dans son plan. Et dans les 5 mois, si la CENI va voir qu'il y a quelque chose qui risquerait de perturber ce rendez-vous, la CENI serait obligée de travailler sur mode d'urgence. Travailler sur mode d'urgence pour que les logistiques, les enjeux pour le déploiement de matériel d'un coin à l'autre, de grands centres de Lubumbashi et de Kinshasa vers d'autres coins, ça va nous prendre combien de temps, combien d'avions on doit recourir au leasing, combien de montées ainsi de suite. Mais nous nous posons aussi la question de savoir si nous avons pu faire l'économie des élections précédentes en ce qui concerne la logistique, les valises satellitaires, les urnes et d'autres matériels, d'autres véhicules des élections qui ont servi pour les élections de 2006 et 2011. Aujourd'hui, le budget électoral n'allait pas être trop gonflé. On devrait travailler de façon rationnelle pour arriver au résultat. Mais moi, je suis d'accord avec vous que nous devons tous jurer pour que le rendez-vous électoral du 23 soit respecté. Pour que ce rendez-vous soit respecté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mobiliser, sensibiliser, faire pression sur le gouvernement qui respecte son plan de décaissement à l'heure qu'il est, pour que le gouvernement et la CENI puissent s'investir dans ce qu'on appelle la transparence électorale. La transparence électorale consiste à des communications entre la CENI et la population et les parties prenantes au processus électoral, entre le gouvernement et les parties prenantes au processus électoral. Et à ce moment-là, nous serons capables de montrer à la face du monde que le Congo vient faire une grande expérience d'avoir financé seul ces élections, ce qui va entrer aussi dans la culture d'organiser les élections par un État africain sans recourir au financement extérieur. Parce que recourir au financement, ce n'est pas mauvais. Tout comme ce n'est pas bon, c'est question aussi de dignité. J'ai été aux élections américaines, britanniques et autres. J'ai posé la question, même belge, est-ce que vous avez pu avoir l'argent des pays voisins? Tout le monde a dit non. Et nous aussi, nous devons nous enorgueillir de ne pas recourir au financement extérieur. Mais en cas de force majeure, à ce moment-là, on peut recourir au financement extérieur.
Mais est-ce qu'avec ce discours trop nationaliste, trop nationalisant, vous n'avez pas l'impression que la communauté internationale est un peu irritée?
Non, la communauté internationale ne peut pas être irritée parce que la communauté internationale est habituée à ce que ça soit le pays des membres de la communauté internationale, c'est que quand les États-Unis organisent les élections, ne recourent pas au financement canadien. Et vice-versa, en matière des élections, tout le monde se réserve et tout le monde s'abstient. Mais du moins, quand l'État est dans le besoin, l'État écrit. Parce que les relations internationales entre État et État,
c'est par l'État qui engage, qui dit je suis dans le besoin.
Merci,
mais quand quelqu'un n'est pas dans le besoin, on ne voit pas comment on va le servir. Mais... donc ici nous devons dire ce qui fait débat aujourd'hui, c'est parce que nous nous trouvons dans un environnement politique et électoral agité. Cette agitation fait que tout ce qui chacun a son contenu a donné au financement du procès électoral par les uns et par les autres. Mais... c'est pourquoi nous disons ensemble. Ensemble, essayons de pacifier nos esprits pour que le rendez-vous ne puisse pas être escamoté, tout en sachant que les uns et les autres, la plupart qui disent élection, élection, ne sont pas la volonté d'aller aux élections à la date prévue. Ils préfèrent qu'il y ait encore un autre glissement. Comme nous sommes habitués à des glissements, en 2000, de l'élection constitutionnelle, on a glissé, on va encore glisser. Le dépôt de candidature pour la députation provinciale, nous étions ici avec l'honorable Mwando, il y avait moins de 200 candidats. Et tout le monde avait la stratégie, c'est une stratégie de glisser sans pour autant le dire publiquement.
Merci Jérôme Bonso, c'était ça votre mot de la fin. Alors John Banza, l'émission tire à sa fin, il faut conclure très, très rapidement. Est-ce que le président de la République, dans ce discours qui est tout, interprété par beaucoup de gens, est-ce qu'il n'est pas dans une stratégie de glissement, un peu comme le soupçonnait tout à l'heure
le président de la République est dans une stratégie de donner la parole aux Congolais, et les élections seront organisées. Et monsieur l'honorable Mwando, monsieur Katumbi et leur lieutenant vont apprendre une véritable leçon électorale.
Mais est-ce que il va être tenté par un troisième mandat ou pas?
Mais écoutez, ce n'est pas ça la question. Attendez, nous allons déposer leur candidature.
Merci. John Banza, en quelques mots aussi, Christian Mwando, est-ce que vous êtes prêt? Tout à l'heure, on a Jérôme Bonso a mis sur la table les soupçons des stratégies de glissement. Est-ce que l'opposition aussi, en n'étant pas forcément prêt, n'est pas en train de favoriser le glissement?
Nous nous sommes décidés à dégager ces gens qui gouvernent notre population par défi et qui sont hors mandat. Il faut être des gens justes. Il faut avoir l'amour de notre peuple. Notre peuple doit se choisir ses dirigeants dans la transparence. Kabila ne doit pas chercher à éliminer ses adversaires politiques déloyalement en instrumentalisant la justice et en privant le peuple des élections libres et transparentes. Moïse Katumbi va rentrer pour poser sa candidature et seul le peuple décidera s'il va gouverner ou il ne gouvernera pas. Et ce n'est pas un individu, Kabila soit-il, qui va l'empêcher de revenir dans son pays. Et pour cela, nous avons besoin de la communauté internationale face à un groupe qui n'a fait que trop couler le sang. Je pense aussi ici à Rossi qui est mort pour réclamer juste son droit de vote.
Merci Christian Mwando. Alain Ngoy était à la technique, ils sont deux Alain aujourd'hui. Alain Irung cette fois-là c'est à la réalisation, supervision signée Pele Kipelamondo, Dona Madimba. C'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais pour ce soir, c'est fini. Merci de votre attention. Au revoir.